direct sur Fréquence Mistral et il est l'heure de retrouver notre émission consacrée aux correspondances de Manosque, François.
Oui Vincent, et c'est avec grand plaisir que je retrouve ce rendez-vous quotidien pendant les correspondances avec aujourd'hui un beau programme. On aura la chanteuse Barbara Carlotti et son musicien Jean-Pierre Petit. Ils vont présenter un salon rock tout à l'heure à Manosque. Et puis il est écrivain et il est photographe. François Vergne et son ami Simon-Pierre Amelin sont là pour parler de Tanger Facsimilé, un ouvrage assez étonnant et plutôt détonnant. Karine Ressé est également à nos côtés avec Marie-Christine Aveline. Nous parlerons des Yeux au ciel, c'est un roman de Karine Ressé et de l'association Éclat de lire avec Marie-Christine. Et puis nous entendrons une lettre, la troisième lettre du renard à la poule. Bonne émission, ça va durer une heure. Et pour commencer cette édition, comme de tradition, eh bien tout simplement le directeur des correspondances de La Poste, Manosque La Poste, pardon, Olivier Chaudançon, qui nous expose le programme de cette belle journée. Olivier Chaudançon, le programme de ce vendredi 24.
Il démarre assez tôt, puisque dès 10h30, nous aurons une rencontre autour du prix littéraire des adolescents du 04, avec un entretien avec un auteur qui s'appelle Richard Coyer, qui écrit un très beau livre pour les ados. Et puis à la même heure, la librairie Le Petit Pois invite Antonio Altarriba, formidable artiste espagnol qui a écrit ce roman graphique qui s'appelle L'Art de voler. À 11h, apéro littéraire, et là seront reçus Carole Martinez et Bernard Comand. Et puis l'après-midi, on continue avec les ados, où là, il y aura deux auteurs, à nouveau Richard Coyer, et puis Karine Ressé, qui a écrit un livre, non pas spécialement pour les ados, mais c'est un livre, je pense, qui peut être lu par un peu tous les âges. Nous aurons ensuite à 15h Véronique Ovaldé. Alors là, c'est un auteur qu'on aime beaucoup, on la suit depuis longtemps, et elle vient nous faire un très bel exercice. Elle vient lire en musique des extraits de son dernier livre, Des vies d'oiseaux. La mise en musique est faite par Philippe Pijard, qui est le leader du groupe Tanger. Et ils avaient déjà travaillé ensemble, ça avait donné quelque chose d'absolument formidable. Voilà, comment la musique peut souligner un texte, le faire mieux entendre encore et habiter pleinement l'univers déployé par un roman. Voilà. À la même heure, une rencontre entre deux auteurs, Lise Beninca d'une part et puis Katrina Bonvicini, une Italienne. J'avais découvert pour son livre précédent, L'équilibre des requins, qui était un livre formidable. Je continue par ordre, je remonte l'après-midi, une lecture à 16h30 avec Capucine Rua, une lecture à deux voix, puisqu'elle sera accompagnée d'une comédienne. À la même heure, Carole Martinez, nous l'avions reçue il y a 2 ans, je crois, pour son premier livre, Le cœur cousu, qui avait été une sorte de petit événement. C'est ce qu'on appelle un long seller. C'est un livre qui sortait de nulle part et qui a fait un énorme succès. Mais en un an et demi, elle a eu, je crois, une quinzaine de prix littéraires pour ce livre-là. Et là, elle vient pour son nouveau et elle sera en dialogue avec Diane Meur. À la même heure également, quelqu'un que les manosquiens connaissent bien désormais, qui est François Beaune, qui a été longuement en résidence à Manosque et qui vient nous parler de son nouveau livre « Un ange noir ». Et puis il fera un point aussi sur ses histoires vraies, il collecte des histoires vraies, il l'a fait à Manosque, il l'a fait à Marseille. Il va le faire toute l'année prochaine dans les grandes villes du bassin méditerranéen, dans la perspective de Marseille 2013. Voilà, donc les correspondances coproduisent cet événement avec Marseille 2013. À 18h, Jean Rollin, un très grand auteur à mon sens. Il était venu il y a longtemps, il était venu en 2001 à Manosque, et puis depuis je n'avais jamais réussi à l'attraper parce que c'est un grand voyageur. Là on a la chance qu'il soit en France. Il nous parlera de son dernier livre qui se passe à Los Angeles et qui s'appelle « Le ravissement de Britney Spears ». Assez drôle d'ailleurs. 18h également, Bernard Comand. Un magnifique recueil de nouvelles qui a eu d'ailleurs le Goncourt de la nouvelle. Ça s'appelle « Tout passe » et c'est d'une délicatesse, d'une finesse absolue. Il fait le point à travers quelques histoires sur finalement ce qui reste de nos vies. Comme ça. C'est vraiment d'une subtilité puissante, si j'ose dire. À la même heure, René Frégny, qui vient nous parler de La fiancée des corbeaux, son dernier ouvrage, avec des moments de lecture par son ami, complice, le comédien Antoine Cossins. Et puis à partir de 18h, place de l'Hôtel de Ville, une nouveauté, l'atelier du messager clandestin Yves Pagès, qui est écrivain, qui est éditeur aux éditions Verticales, et qui est un collectionneur de petites phrases. Il en écrit, il en recueille, etc. Il en a rassemblé pour nous une trentaine, et les gens pourront venir le voir, choisir la petite phrase qu'il préfère, et il fabriquera sur place un badge avec ces petites phrases, et donc les gens pourront repartir avec le badge de la phrase qu'ils auront choisie. Et puis, bah, nous abordons la soirée. Alors là, 21h, je crois pouvoir dire que ça va être un grand moment. C'est une lecture de Dominique Raymond. Pour ceux qui se souviennent, il y a 2 ans, elle nous avait fait une lecture éblouissante de Bonjour minuit. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est un livre de Jean Rhys. Et là, elle revient pour lire Mémoire de l'inachevé de Grisilidis Réal. Dominique Raymond est une lectrice absolument saisissante et le texte est extrêmement fort puisque Grisilidis Réal, une auteure suisse qui est morte il y a 2-3 ans, a été prostituée par obligation parce qu'elle n'avait plus d'argent, elle avait 4 enfants à nourrir et sa vie s'est transformée jusqu'à ce qu'elle devienne une sorte de défenseuse des prostituées. Elle en a fait un combat politique, elle a défendu le lien social que peuvent aussi apporter les prostituées. Et c'est une femme complètement hors du commun, iconoclaste, qui s'est battue dans tous les sens, qui est drôle, qui est émouvante, qui a aussi des moments d'abattement. Voilà, c'est une force de la nature, cette voix de Grisilidis Réal, et je pense que Dominique Raymond va nous la faire entendre de façon unique. Et pour finir la soirée, à 22h30, une habituée des correspondances, je peux le dire également dans son cas, c'est Barbara Carlotti, elle est déjà venue, elle est là, elle vient nous faire entendre une création, elle a voulu travailler sur le rock et les rockers, l'archétype du rocker, donc elle va alterner des textes de grands critiques rock, et puis l'interprétation de standards du rock, et puis des compositions originales pour nous présenter le mythe du chanteur rock, voilà. Donc, une belle création pour les correspondances.
J'ai grand plaisir d'accueillir une des responsables de l'association qui se bouge peut-être le plus dans le cadre de la lecture et de la littérature jeunesse à Manosque. Je veux parler de l'association Éclat de Lire. Bonjour Marie-Christine Aveline.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir ici. On va signaler également que vous êtes secrétaire de l'association Les Mille et Une Nuits de la Correspondance, autrement dit des correspondances. Donc c'est tout à fait naturel de vous recevoir ici même. On peut rappeler l'action d'Éclat de Lire brièvement?
Oui, alors donc l'association Éclat de Lire que j'ai le plaisir de coordonner travaille à l'année autour de la lecture et de l'écriture auprès des enfants et des jeunes. Nous proposons des animations depuis les bébés lecteurs et jusqu'aux adolescents tout au long de l'année et prioritairement pour les enfants pour qui l'accès à la lecture est moins facile.
Et dans le cadre des correspondances, vous proposez aussi d'autres manifestations particulières?
Alors, dans le cadre des correspondances, on propose plusieurs types d'animations. Donc, on a un stand pendant tout le temps des correspondances, animation autour de l'écriture avec un concours de lettres. Je dois dire qu'on a déjà environ 250 à 300 lettres pour le concours, prix qui sera remis demain. Donc, ça veut dire que je pense que nous allons passer une grande partie de la soirée et de la nuit à lire les réponses à la lettre qui était proposée pour le concours. D'autre part, on avait proposé mercredi une lecture musicale. Je crois qu'on va en entendre un extrait, lecture de Lettres à plume et à poil, qui a été effectuée par Raphaël et accompagnée par les enfants du conservatoire à l'accordéon.
Oui, il s'agit de Raphaël France-Kuhlmann et puis de la classe de Cécilia Negro.
Absolument. Et d'autre part, on accompagne aussi la visite d'exposition donc, qui sont proposées par d'autres partenaires, donc au Centre Giono, l'exposition Giono à Marseille, donc il y a une animation un peu spéciale pour les enfants, et de même à Carzou, sur l'expo Jules Mougin, où il y a aussi une petite, on est partenaire pour proposer des visites un peu spéciales pour les enfants.
Et parmi les actions d'éclat de lire, il y a également les petits éclats de lire sur notre antenne,
oui,
avec vos amis Claudine, Jeanne et tous les autres. Autrement dit, la littérature jeunesse à la radio, ce qui est assez particulier. On en est ravis chaque fois. C'est un ravissement pour nous d'assister à ces émissions, surtout avec notre amie Claudine Girard.
Tout à fait.
Alors, Marie-Christine, vous organisez également avec Éclat de Lire le concours, le prix de la littérature jeunesse cette année, avec plusieurs auteurs qui ont été sélectionnés.
Voilà, donc cette année, comme depuis plusieurs années, le prix littéraire des adolescents du département que nous coordonnons, ce prix littéraire donc débute au moment du Festival des Correspondances et se termine en fin d'année scolaire en mai au moment de la Fête du Livre Jeunesse. Donc c'est un prix qui est proposé à l'ensemble des collèges et lycées du département et chaque année environ une douzaine de classes, c'est-à-dire une dizaine d'établissements du département participent à ce prix, ce qui représente environ 400 jeunes du département donc qui vont lire les 12 ouvrages sélectionnés. Cette sélection est effectuée par des documentalistes, libraires, puis des membres de l'association Éclat de Lire. Voilà, donc la sélection est établie en début d'année scolaire. Proposé en lecture, et les jeunes qui sont là aujourd'hui aux correspondances vont avoir le plaisir de rencontrer deux des auteurs de la sélection qui sont Karine Ressé et Richard Coyer.
On va parler tout à l'heure avec Karine Ressé de son ouvrage Les yeux au ciel. C'est important pour vous de pouvoir arriver dans les établissements scolaires et de proposer de travailler avec les documentalistes et les profs de français?
Bien sûr, important et fondamental. Alors, on a donné le terme de prix littéraire. J'aime pas trop les termes de prix. Disons plutôt que ce sont des coups de cœur de lecture, parce que mettre en compétition des ouvrages aussi différents que des recueils de nouvelles, des BD, des albums, des romans, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais c'est plutôt pour inciter les jeunes à lire. Et c'est vrai que la motivation de pouvoir rencontrer des auteurs, puisque non seulement ils vont en rencontrer deux là pour le démarrage du prix, mais en mai nous invitons en général 5 ou 6 des auteurs du prix. Qu'ils aient ou non le prix d'ailleurs, ce qui donne aux ados le plaisir de pouvoir dialoguer et parler des livres avec les auteurs. Et c'est une vraie motivation pour eux de pouvoir lire avec l'idée qu'ils vont pouvoir en rencontrer l'auteur de ces livres.
Donc tout cela concourt à la promotion de la lecture et évidemment de la littérature et de la littérature actuelle, avec des auteurs forcément vivants qui viennent à Manosque pour parler de leur œuvre. Vous avez invité cette année Karine Ressé. Avant de s'adresser justement à Karine, un mot sur cet auteur qui est aussi un auteur jeunesse et qui a fait qui vient d'écrire un livre aux éditions de l'Olivier, Les yeux au ciel, assez particulier, dont on va parler dans un instant. C'est quelqu'un que vous connaissiez bien?
C'est quelqu'un qu'on connaissait. Effectivement, elle est déjà venue il y a 5 ans, je pense, dans le cadre des correspondances. Elle était venue lire un de ses ouvrages aux enfants, puisqu'on propose, donc je l'ai dit tout à l'heure, le mercredi, des lectures pour les enfants. Donc elle était déjà venue. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on suit, comme d'autres auteurs, mais on est ravis de pouvoir l'accueillir cette année.
Et elle a écrit Les yeux au ciel, c'est paru aux éditions de l'Olivier. Bonjour Karine Ressé.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation à la radio. Les yeux au ciel, alors c'est votre dernier roman, vous en avez écrit plusieurs déjà. C'est un roman qui est assez prenant parce que c'est une plongée dans une famille, j'allais dire, décomposée, recomposée, enfin bref, composée, si on veut. Et on fête l'anniversaire du grand-père, tout le monde se retrouve, on vient presque de tous les coins du monde, ou presque, en tout cas de la France et des États-Unis, pour aller autour de ce grand-père qui porte un joli prénom, qui s'appelle Noé. Et autour de lui, il y a eu quelquefois quelques vagues qui s'apparentent un petit peu au déluge. Ils habitent d'ailleurs, tous ces gens-là, en bord de mer. Et on va plonger dans une famille où il y a un secret de famille, quelque chose dont on ne parle pas, c'est terrible, c'est la mort d'un enfant, une enfant qui s'est donnée volontairement la mort. Elle était âgée de 10 ans, Violette, mais dans cette famille, on ne parle pas de ça, et on vit 5 jours au rythme de cette famille qui se retrouve. Donc c'est l'histoire de Noé, de Marianne et de leur progéniture.
Oui, en fait, c'est un... Donc, je voulais m'essayer un peu au motif du... du genre du roman choral, comme il y a aussi des films chorales, et plutôt aussi de plus particulièrement du roman familial. Donc c'est vrai que là j'ai beaucoup de personnages qu'on suit en fait chapitre après chapitre. Un peu en caméra
des chapitres
subjectifs.
Qui portent le nom de ces personnages fois d'ailleurs
Oui, pour se repérer un petit peu, parce qu'il y a quand même à peu près, on suit à peu près 14 personnages, donc on les suit tour à tour un peu en caméra subjective, et pour moi c'était un peu aussi un challenge de m'atteler à ce genre de livre, puisque jusqu'à présent j'étais plutôt en suivant un ou deux personnages à la première personne, donc avec une voix.
Et là, effectivement, on est dans la peau de Noé quand c'est son chapitre, on est dans la peau de Scarlett ou de Lena ou de Marianne, etc., de Vincent, de tous ces personnages qui sont tous relativement attachants quand même. Hein. On est en empathie avec ces personnages, on pénètre vraiment dans leur intimité, dans leur vie la plus profonde. Vous vous êtes inspirée de personnages réels, Karine, pour écrire ce roman ?
Non, j'ai l'impression de les connaître, mais c'est parce que j'ai beaucoup été avec eux. J'ai tout le temps de l'écriture, mais ce sont vraiment des créations.
Vous avez une sympathie, une tendresse particulière pour un de vos personnages ?
Pour tous, de toute façon, même si beaucoup ont énormément de travers, de défauts, de faiblesses. Je les aime tous. Et j'essaie d'être en empathie avec eux, de les comprendre. Et de toute façon, c'est le rôle aussi un peu en tant qu'auteur, d'essayer de comprendre les personnages, quels que soient leurs actes, et de ne pas rentrer dans une sorte de jugement. Maintenant, je me sens un peu plus proche, par exemple, de Lena, qui est la fille aînée, parce que dans chacun de mes. En fait, mon premier ouvrage pour adultes était. Était vraiment, on peut dire, autobiographique, et au fur et à mesure, là c'est mon cinquième, je m'éloigne vraiment du genre autobiographique, mais quand même à chaque fois il y a un des personnages principaux qui voilà, est une sorte de clone, de double, de plus en plus éloigné de moi-même, mais auquel je prête pas mal de choses.
Et il y a un personnage dans ce roman qui est celui qui est le plus poignant, c'est bien sûr la petite fille, Violette, qui a disparu, qui a décidé de quitter le monde et qui a essayé de voler à l'âge de 10 ans, et évidemment elle n'y est pas arrivée. Et donc il y a un secret de famille, donc quelque chose de particulier.
Alors ça plane, alors maintenant là c'est une interprétation hein, qu'elle a voulu voler, maintenant ça prête à discussion justement, est-ce que c'était un accident, est-ce qu'elle a vraiment voulu voler, est-ce qu'elle pensait vraiment qu'elle pouvait voler, et elle était un peu plus petite, hein, elle avait 4 ans et demi, donc à 4 ans et demi on est encore en plus... C'était une enfant qui était un peu particulière, qui était à la fois, qui avait présenté des dispositions assez impressionnantes, et son père Noé, qui était pédiatre, en fait, était très très fier de cette petite fille-là qui savait déjà, commençait déjà à savoir lire, écrire à l'âge de 4 ans, donc quand même assez précoce, et à la fois qui parlait très très peu, qui communiquait très peu, qui mangeait comme un oiseau, qui avait peu des problèmes de communication, qui était un peu enfermé dans sa bulle avec son père Noé et avec son frère Merlin qui a un an et demi de moins qu'il. Moins qu'elle, et qui est un peu comme des jumeaux, quelque chose de très très fusionnel. Et d'ailleurs, ce frère malin, 30 ans après, ne s'en est pas remis. C'était une petite fille un peu, sûrement qui avait des problèmes un peu psychologiques, et il y a un peu, tout le monde est un peu passé peut-être à côté de ça. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il y en a qui, voilà, c'est un peu des.
Il y a des interprétations, chacun.
Et d'ailleurs, je pense qu'en tant que lecteur, on se fait sa interprétation.
Exactement. Alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant dans votre livre. Ça se passe en Bretagne, il faut le souligner. C'est un endroit aussi particulier où la marée joue un rôle important. Il y a des scènes importantes qui se passent sur l'eau et à côté de l'eau, sur la plage. Il y a un cadre particulier, une atmosphère aussi qui est assez particulière, très sensible. Et puis, ces personnages, en 5 jours, il va se passer beaucoup de choses. On va apprendre que, ben, qu'il y a un divorce qui va être prononcé, qu'il y a une séparation terrible, puis une des personnages va se retrouver avec un amour d'enfance, et puis ça va se faire, et puis un autre couple qui s'est formé va se déformer avec un personnage magnifique, mais qui ne fait pas partie de la famille, c'est Aïssatou et ses deux enfants noirs, comme son prénom peut l'indiquer, vous vous en doutez. Il se passe beaucoup de choses quand même en 5 jours.
Oui, parce qu'en fait, alors dit comme ça, ça peut sembler un peu indigeste, mais en fait, chacun arrive à cet anniversaire, vraiment l'anniversaire est un prétexte, hein, c'est une famille qui, à la fois, sont des gens qui se voient, mais peut-être pas tous ensemble. Donc là, vraiment, ça fait 30 ans que tous ces gens-là n'ont pas été rencontrés, mais chacun a fait sa vie, a grandi, donc avec des pièces rapportées, chacun avec ce qu'il essaye de constituer, et chacun arrive avec ses bagages, hein, et aussi de ce qu'il est en train de traverser, donc un moment bien précis de sa vie. Donc en effet, notamment Léna, elle est un moment où... Elle est là un peu en perdition. À la fois, c'est un des piliers de la famille en tant que sœur aînée, mais là, elle est, on peut dire, dans une sorte de dépression. Elle a du mal à gérer ses enfants, etc. Et puis Achille, qui est le... Parce que oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est le côté famille recomposée, c'est que c'est Noé, qui est le patriarche, a eu un premier mariage. Il y a eu un fils, Achille, qui est issu d'une américaine, et donc quand ils se sont séparés, Suzanne et Achille sont repartis aux États-Unis. Donc Achille est juste venu chaque année pour les grandes vacances dans cette maison à Saint-Lunaire, donc près de Saint-Malo en Bretagne, et donc c'est pour lui, c'est toujours senti comme un peu le vilain petit canard, vraiment la pièce rapportée, alors que c'est le fils aîné, et donc lui, il est en train de vouloir se séparer de sa femme. Donc chacun arrive avec en effet des choses à gérer, et en même temps devoir recréer, retisser des choses, et c'est vrai que c'est l'occasion de faire ressurgir pas mal de choses, et notamment Violette.
Et puis il y a également un petit voyage, et là je suppose que l'auteur littérature jeunesse que vous êtes a laissé beaucoup du sien dans cet aspect. Il y a l'idée que les enfants se font des adultes, par exemple les trois enfants d'Achille, justement les trois petits Américains
qui sont
assez typés, et en même temps qui ont beaucoup de choses à dire et à faire passer à ce moment-là précis, mais également Scarlett, qui est peut-être votre petite favorite. Scarlett, non?
Ah, j'aime beaucoup Scarlett, oui, c'est une adolescente de 13 ans,
Un petit peu délurée, on va dire.
Ah non, délurée, c'est pas le mot, bizarre, spécial, à la fois très très mûre, oui, délurée dans le sens que c'est une adolescente, donc qui vit avec ses grands-parents, parce que c'est la fille de Merlin, mais Merlin l'a eu à un moment donné à 20 ans, où il était vraiment très instable, où il était plongé dans de diverses addictions, et la mère de l'enfant encore plus, et qui un jour est venue au bout de 3 ans... abandonnée comme un paquet, la petite Scarlett. Et donc ce sont les parents, Marianne et Noé, qui l'ont pris en charge, et donc elle vit avec ses grands-parents. Elle est quand même à la fois très entourée, à la fois avec un problème d'identité, enfin de voilà, le socle, voilà, quelque chose qui manque. Et elle a la particularité notamment de se promener dans Saint-Lunaire. Elle, c'est assez désert quand même, comme toutes les stations balnéaires, avec beaucoup de maisons de vacances, et donc savoir où se cachent les clés, de rentrer dans les maisons, etc. Et notamment, elle s'est liée d'amitié avec un homme dont on ne définit pas trop l'âge, mais en fait qui doit avoir une soixantaine d'années, et avec qui elle prend des goûters, ils ont des discussions, tout ça. Mais bon, en effet, il y a quelque chose d'un petit peu de louche là-dedans. Mais et notamment, elle, cette jeune fille voit un fond, enfin qui elle est au courant de rien, puisque le silence, il y a quand même pas mal de silence dans cette famille. Elle voit un fantôme dans la maison.
Et ce fantôme, on devine très bien qui c'est.
Oui.
Vous avez utilisé des prénoms aussi qui parlent à notre imaginaire quand même, et à notre culture. Achille, on imagine un héros. Noé, c'est un patriarche, c'est évident. Scarlett, on imagine aussi une héroïne d'un film célèbre. Et puis Merlin, n'en parlons pas. C'est un choix voulu d'avoir... Il y avait Marianne aussi.
Oui, c'est la première fois que je fais ça. Alors,
De baptiser comme ça vos personnages.
J'avais envie de prendre des des prénoms très romanesques, voilà, parce que voilà, c'est une entreprise très romanesque et par rapport à d'habitude, je prends des prénoms plutôt quotidiens. Voilà, c'était une envie, puis ça m'a porté, voilà, ça m'a aidé à construire le roman.
Quelques autres prénoms, Stella, Rose, Sydney, etc., Zoé. Évidemment, c'est un roman que je vous recommande, Les yeux au ciel de Karine Ressé, c'est paru aux éditions de l'Olivier. Il a un mérite, votre roman, Karine, c'est que il s'adresse aussi bien à des adultes, à des personnes d'âge mûr, qu'à des enfants et à des adolescents. Marie-Christine, vous êtes d'accord avec moi?
Oui, oui, des enfants,
enfants peut-être pas.
Des adolescents.
Oui, oui, voilà. Adolescents.
Oui, tout à fait.
Et c'est écrit de manière très limpide, très, très, très simple. Il y a même un petit tableau généalogique pour pas se perdre dans les filiations.
Faut pas trop se perdre, mais il y a des lecteurs qui se sont perdus quand même.
Donc c'est, on vous a fait souvent cette remarque de dire, tiens, vous écrivez pour toutes les générations.
Je pense que c'est le cas de ce livre-là, parce que en effet, mes personnages, ils sont. Enfin, qu'on suit, ça va de 10 ans à 70 ans. Voilà, donc pour le coup, c'est pas générationnel, c'est transgénérationnel. Voilà. Mais... maintenant, quand j'ai écrit, j'ai pas spécialement pensé à l'âge du lecteur. Je pense pas trop au lecteur quand j'écris.
C'est après que ça vient. Et le lecteur, de toute façon, il existe par la suite.
Voilà.
Les lecteurs, vous allez les rencontrer tout à l'heure. C'est oui. À 14h avec Richard Coyer. C'est bien ça qui est
oui.
Prévu. À Manosque. C'est à quel endroit très exactement?
C'est à la place d'Herbès, devant
oui.
La médiathèque.
Donc, vous allez les rencontrer. C'est intéressant pour vous de croiser les regards des lecteurs, justement, d'avoir leurs sentiments sur vos écrits.
C'est très, très intéressant. Maintenant, c'est un peu angoissant. parce que, c'est bête de dire ça, mais l'écriture, c'est un acte solitaire. Et moi, notamment, si j'écris, c'est parce que j'ai du mal à parler. Donc, c'est pour ça que, notamment... la radio, c'est pas forcément l'exercice le plus facile pour moi.
On vous remercie de l'avoir accepté, Karine. Vous en êtes très bien tirée. Rencontre donc avec vous tout à l'heure à 14h.
Oui.
Et puis on aura le plaisir, je crois, et le bonheur de vous recevoir d'autres fois à Manosque dans
Merci.
Le cadre des correspondances. Merci à toutes les deux. On va alléger un petit peu notre discours avant d'accueillir François Vergne et Simon-Pierre Hamelin. Je vous propose d'écouter la troisième lettre du renard à la poule. Vous savez, ce sont ces fameuses lettres à plumes et à poils de Philippe Le Chermeyer et qui sont lues par notre ami Raphaël France-Kuhlmann. On se retrouve tout de suite après.
Madame la poule, encore une fois, votre lettre m'a laissé sans voix. À nouveau, vous mettez en cause mon honnêteté et vos accusations m'auraient profondément blessé si je ne les mettais pas sur le compte du chagrin et de l'inquiétude qui doit vous ronger. Comment cela? Votre mari, Monsieur Lecoq, a disparu depuis 2 jours et les informations que vous possédez vous amènent à me soupçonner fortement? Que dites-vous? Qu'il est parti jeudi matin pour me rencontrer et mettre un terme définitif aux illusions que je nourrissais à l'intention de votre fille? Que le fermier qui s'est mis à sa recherche prétend avoir trouvé quelques plumes à proximité de mon terrier? Chère Madame Lapoule, sachez que je ne vous tiendrai pas grief de ces propos. Je sais ce qu'est la souffrance, cela fait si longtemps que je me morfonds dans mon terrier, seul et abandonné. J'imagine votre inquiétude et j'espère vivement que votre mari, qui voulait m'empêcher d'épouser votre fille, vous revienne. Mais en même temps, sans vouloir ajouter à votre peine, j'ai bien peur que cela ne soit pas possible. Excusez ma franchise, mais vous savez, les bois qui environnent votre poulailler sont bien peu sûrs. Votre mari est bien téméraire. S'aventurer seul dans la forêt, ce n'est pas prudent, surtout quand on n'a pas de dents. Enfin, ne croyez surtout pas que j'en ai une contre lui. J'aime bien votre mari, si, même s'il est un peu coriace, je veux dire, dur en affaires. S'il était venu accompagné, comme je vous l'avais proposé, peut-être n'aurait-il pas connu telle mésaventure. Eh oui. On n'est jamais trop prudent. Mais monsieur a sans doute voulu n'en faire qu'à sa tête, comme toujours. Madame Lapoule, comme je vous l'ai déjà dit plus haut, je comprends que la douleur puisse vous aveugler, mais je le répète, je n'ai rien à voir avec cette disparition. Cependant, Permettez-moi de m'offusquer. C'est quand même incroyable que ce soit moi qu'on soupçonne à nouveau, et je me demande bien pourquoi vous accordez du crédit à ce qu'a pu vous rapporter le fermier. Vous savez bien que c'est quelqu'un qui ne m'a jamais apprécié, toujours à me menacer de coups de bâton ou de coups de fusil. Et puis, vous devriez peut-être vous méfier de lui. Si ça se trouve, la disparition de votre mari, c'est lui qui en est responsable. Poule au pot, coq au vin, poulet à la broche, ce ne serait pas la première fois qu'il vous jouerait un mauvais tour, sans compter tous les œufs qu'il vous a déjà dérobés. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez, mais vous savez ce que j'en dis. Autrement, comment va votre fille? J'espère qu'elle n'est pas trop affectée par cette disparition, et qu'elle continue à picorer son grain bien comme il faut. Ce serait dommage qu'elle perde de sa prestance. Ses rondeurs lui vont si bien. Moi, de mon côté, ça va un peu mieux. Ce n'est pas encore la grande forme, car tant que votre fille ne sera pas dans mon terrier, la saveur des choses continuera à me paraître fade. Cependant, depuis 2 jours, j'ai retrouvé l'appétit. Et maintenant que je me suis mis quelque chose sous la dent, certes, ce n'était pas de la première fraîcheur, je me sens mieux. Et puis, j'ai repris espoir. Qui sait, dans quelque temps peut-être, serons-nous réunis pour un repas de noces. Qu'en pensez-vous? Je sais que vous aimeriez être fidèle à la mémoire de votre mari et à ses volontés. Mais vous savez que ce mariage est une bonne idée. Imaginez, quand vous rentrerez dans le poulailler, tous les autres volatiles se pousseront des ailes et vous pourrez les entendre chuchoter sur votre passage. C'est elle qui a marié sa fille au renard. Elle est célèbre dans le monde entier. Songez-y, madame la poule, la gloire, la célébrité. Avec mes sincères condoléances, le renard.
Direct sur Fréquence Mistral, c'est les correspondances, émission spéciale avec notre deuxième plateau, François.
Oui, avec 2 invités qui nous ont rejoints, il s'agit de l'auteur François Vergne et du photographe Simon-Pierre Hamelin. Bonjour à tous les deux. Si je vous salue tous les deux, c'est que tous les deux vous avez signé un ouvrage assez étonnant qui s'appelle Tanger Facsimilé, qui est paru aux éditions Le Bec en l'air, qu'on connaît fort bien ici à Manosque, et plus particulièrement dans sa collection Collatérale, qui permet tout simplement à des photographes de pouvoir illustrer, à moins que ce ne soit l'inverse, à des auteurs de pouvoir illustrer des photos et inversement. Donc François Vergne, vous avez écrit un texte Tanger Facsimilé en collaboration avec Simon Pierre. Comment ça s'est passé votre travail tous les deux, photographe et auteur?
Non, en fait Simon m'a montré des photos qu'il avait prises à Tanger et sur Tanger. Et il m'a demandé si j'étais prêt à écrire un texte à partir de ces photos. Et cette proposition m'a tout de suite intéressé parce que d'une part les photos de Simon m'inspiraient des choses. Elles sont très belles, même si à mon sens elles traduisent une vision de la ville qui n'est pas la mienne. Mais c'est justement ça qui était intéressant. Enfin ça, Simon nous en parlera peut-être, la vision de la ville qu'il donne à travers ses photos.
Vous habitez tous les deux à Tanger?
Oui, nous habitons à Tanger tous les deux, oui.
D'accord.
Et par ailleurs, c'était une proposition d'autant plus intéressante pour moi que depuis que je suis installé à Tanger, il y a relativement peu de temps, 4 ans maintenant, j'avais envie d'écrire un texte sur la ville, mais que je n'osais pas franchir le pas. J'avais peur, en écrivant un texte sur la ville, de tomber dans un exotisme, enfin une forme d'exotisme que je n'aime pas du tout. Et donc, je sentais une barrière, je n'arrivais pas à écrire sur la ville. Et là, cette proposition m'a permis de franchir le pas. Et puis après, en fait, bon, moi j'ai développé ma propre histoire en tenant compte des photos, dans la mesure où les photos disent quelque chose de la ville qui existe aussi dans mon texte, dans la mesure aussi où les photos arpentent la ville comme mon personnage arpente la ville. Et puis après, il y a eu un autre travail de la part de Fabienne, notre éditrice, qui a demandé aussi à Simon des photos complémentaires pour pouvoir les mettre, en mettre davantage en rapport avec le texte.
Simon, comment est-ce que vous avez procédé? Vous avez donc apporté
vos photos de Tanger à François Vergne, et puis après vous en avez discuté avec lui ?
Pas tellement, non. Mais disons qu'on a essayé d'en discuter, mais c'est toujours difficile de discuter de son propre travail. Je crois que le point commun qu'on a peut-être, c'est d'avoir eu le temps justement d'être dans cette ville, et c'est d'avoir eu peut-être un regard de spectateur sans rien demander, pour s'éloigner justement de la vision exotique qu'on a forcément, puisqu'on vient on vient d'un autre endroit que Tanger. On n'en a pas parlé parce que probablement justement que François a choisi d'être en contraste avec ses photographies. Et comme Tanger est aussi une ville très contrastée à plusieurs niveaux, ça fonctionne assez bien.
Avec quelques personnages qu'on voit ou qu'on devine, souvent de dos, souvent dans la pénombre, un petit peu d'ailleurs comme dans les lignes de François Vergne. Le résultat, vous qui êtes un orfèvre, a priori un graphiste, un photographe, de ce roman et de cet ouvrage particulier, Tanger facsimilé aux éditions Bec en l'air, qu'est-ce que vous en pensez ? En toute honnêteté ?
Non, en toute honnêteté. Après, c'est vrai que dans un travail de ce genre-là où on associe la photographie, la littérature, c'est la mise en forme qui compte. C'est, après, on connaît les qualités d'éditeur de la maison du Bec en l'air. Donc, je vais pas faire un
et de cette collection notamment.
Cette collection. Ouais, mais c'est vrai que c'était important quand même, justement pour Tanger, qui il y a énormément de littérature, énormément de photographies qui sont produites à Tanger et surtout sur Tanger. Et ce qui est toujours gênant, c'est effectivement c'est une forme un peu attendue. Donc là, il y a eu aussi un vrai travail sur la forme et d'un éditeur aussi qui connaissait et les auteurs et le lieu. Et ça, c'est très important d'avoir justement cette espèce d'humilité ce temps face au lieu.
Et quelqu'un qui vous a fait confiance, très certainement, pour connaître Fabienne, ça doit être le cas. François Vergne, on va parler maintenant du fond du roman, autrement dit de l'histoire elle-même. C'est une histoire particulièrement glauque. Un gamin de 13 ans qui est le souffre-douleur de sa classe à Paris, qui s'enfuit, qui fugue, qui va traverser l'Espagne avec 50 euros en poche, c'est ça ? Pas plus ?
Oui.
Et puis qui va arriver à Tanger, ville de tous les espoirs pour lui,
oui.
Tous les désespoirs en fait, puisqu'il va se faire hébergé par des tas de gens qui vont vouloir qu'une chose, c'est le violenter, le violer. Il va se prostituer, il va être prostitué par des tas de gens. C'est une histoire très très glauque tout ça.
Moi je dirais pas tant que ça. Alors bien sûr le fond est un petit peu désespéré parce que c'est une histoire sur l'impossibilité de grandir en fait. C'est-à-dire que cet enfant effectivement quitte sa vie en France et veut avoir une nouvelle vie, et vu l'âge qu'il a, c'est-à-dire qu'il a à peu près 12-13 ans, une nouvelle vie pour lui, c'est une vie où il va devenir adulte, où il va franchir les différentes étapes avant de devenir adulte. Et en fait, il ne réussit pas à devenir adulte. Donc c'est peut-être d'abord et avant tout ça que raconte le roman. Alors cela dit, moi je ne dirais pas que ce soit si glauque que ça, parce que dans son rapport avec les autres, j'ai voulu montrer que certes, d'un côté, il est instrumentalisé, mais aussi il est aimé en fait, c'est-à-dire que toutes les personnes, enfin tous les personnages exactement qu'il est amené à rencontrer sur son chemin l'aiment à leur façon, chacun à sa façon l'aime en fait, et lui, par contraste il est un petit peu passif, et donc il est plutôt on peut pas dire qu'il soit acteur de sa propre vie, il est pas acteur non plus de ces liens qu'il a avec les autres, et ça renvoie à son impossibilité de devenir quelqu'un.
C'est vrai qu'il se laisse porter par le mouvement.
Voilà. Mais je dirais du coup que certes c'est sombre, mais j'ai voulu montrer que dans le rapport humain tout est beaucoup plus contrasté que ce qu'on dit ordinairement. Alors bien sûr il se prostitue ou on le prostitue, mais c'est aussi comme pour certains enfants au Maroc, c'est une façon tout simplement de vivre, de gagner sa vie. Et le lien de prostitution n'exclut pas une forme d'affection, pourquoi pas. Alors c'est particulièrement le cas quand il rencontre cette vieille femme, qui en fait est une figure maternelle, et dont on pourrait se dire, bon, elle au moins va être une mère de substitution, et donc ne va pas songer à le prostituer. Et au contraire, c'est elle qui le prostitue le plus. Mais j'ai voulu montrer que malgré tout, elle l'aime. C'est malgré tout bien une mère de substitution dont elle s'occupe comme un enfant. Elle l'habille, elle le soigne, elle le lave, elle le nourrit avec de bonnes choses. Donc voilà, j'ai voulu montrer que c'était des relations contrastées, on va dire.
En même temps, c'est vrai qu'elle n'hésite pas à lui faire descendre dans les bas-fonds d'un bar mal famé à Tanger, ou bien le prostituer avec des riches occidentaux qui passent dans des voitures, dans des luxueuses, etc., etc. Il n'y a pas de nom de famille et de nom de prénom dans votre livre. C'est évidemment voulu. C'est-à-dire que l'enfant, on ne sait pas comment il s'appelle, l'homme qu'il rencontre, puis après ce sera l'homme, encore un autre homme, oui. Le marchand de bonbons, la vieille, comme dont vous venez de parler.
Oui.
C'est voulu, cette espèce de pénombre sur les identités ?
Oui, j'aime bien que les personnages restent des masses anonymes. Dans mon esprit, j'aimerais qu'ils aient une dimension universelle, en fait, et que, par exemple, tout le monde puisse se reconnaître dans cet enfant, d'une façon ou d'une autre.
C'est une fiction ou c'est une réalité, François ?
C'est une fiction, mais qui renvoie à une réalité très tangéroise. C'est-à-dire que travailler à partir des photos de Simon qui évoquent Tanger, c'était pour moi aussi évoquer Tanger et évoquer une certaine réalité à Tanger. Et pour moi, enfin, ce que je voyais de la réalité à Tanger, c'était la réalité des corps, beaucoup, qui est très présente, alors qu'ici, en Europe, les corps sont beaucoup plus cachés, dérobés, habillés, etc. C'était là une certaine réalité des corps, une certaine réalité aussi une forme de saleté qui n'existe plus en Europe. Les rues sont sales, les vêtements sont sales, enfin pas tous les vêtements, je veux dire, mais il y a quelque chose de pas apprêté, de pas soigné comme en Europe. Et donc je me suis dit, mais si je veux faire ressortir, éclater cette réalité des corps qui est pour moi la réalité de la ville, il faut que je trouve une fiction qui mettent en scène justement un corps hésitant, un corps qui se cherche, un corps qui éclate en quelque sorte, qui devait éclater aussi à la face du lecteur. Et ça ne peut être qu'un corps adolescent qui grandit, qui pousse un petit peu dans tous les sens en fait. Qui pousse dans la contrariété, mais qui pousse quand même.
Ce rapport à la saleté aussi, c'est très important. Il y a quelques passages, vous l'avez dit, quand la vieille femme le lave, par exemple, quand il doit laver ses vêtements et qu'il en a honte parce que son slip est vraiment taché des deux côtés, si l'on peut dire, de manière un peu crue.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est important et c'est une belle chose. Vous nous l'avez dit, donc c'est une fiction, on veut bien croire une partie de l'histoire. La prostitution enfantine, c'est une réalité que vous voyez tous les deux à Tanger ? Simon-Pierre.
Oui, c'est une réalité. C'est une réalité qui est différente aux pratiques qu'on connaît en Occident. Donc il y a quelque chose de plus archaïque, mais ça reste quand même une réalité. C'est-à-dire que finalement, le fait que cet l'adolescent du roman soit obligé de devenir un homme assez rapidement, ça c'est une réalité quotidienne à Tanger, où effectivement il n'y a pas le choix. Il y a une espèce de cour des miracles qui est composée d'enfants et d'adolescents qui est très visible dans la ville malgré tout ce qu'on peut faire pour les masquer ou pour les amener un petit peu plus loin.
Je ne vais pas vous apprendre non plus qu'il y a des lois internationales qui permettent d'éviter ce genre de travers. Vous pensez que ça ne fonctionne pas sur le terrain ? C'est-à-dire que est-ce que vous voyez des pédophiles bien blancs venus d'Europe du Nord ou de notre pays ?
Non, c'est quand même différent. C'est pas la Thaïlande, c'est pas non plus Marrakech. Tanger est vraiment une ville particulière en Méditerranée, au Maroc.
Et vous y êtes heureux tous les deux à Tanger ?
Oui, pour d'autres raisons, mais.
J'espère.
J'espère. Mais malheureusement, c'est vrai que autant cette ville est un endroit rêvé pour y vivre, autant on est confronté, de par sa position géographique, à ce genre de choses que décrit François. Tous les mâles du siècle, tous les maux du siècle, on les voit quand même de Tanger et de haut.
un extrait de votre livre. Ce sont les dernières phrases de votre livre. Je rappelle donc que c'est un enfant qui est parti à Tanger, un enfant qui était délaissé par sa famille et qui était le souffre-douleur de ses camarades de classe. Il s'est donc prostitué à Tanger et puis tout d'un coup, à la fin, voilà, il y a juste deux phrases, pas plus, quoi, vraiment. Il crut voir soudain ses parents dans un couple de touristes qui s'avançaient vers le banc où il s'était assis et qui maintenant s'était arrêté devant un restaurant pour lire le menu. Qu'allait-il leur dire? Et comment même pourrait-il soutenir leur regard dans l'état où ils se trouvaient? Là, on a toute la puissance de votre roman, François, parce que on a ce personnage qui est en train de grandir aussi, tout d'un coup, et qui a parcouru un chemin initiatique très particulier, très spécial. Mais bref, c'est assez prenant. Donc, on a une belle plume, on a un bel œil, et c'est dans Tanger facsimilé. François Vergne et Simon-Pierre Hamelin, c'est aux éditions Le Bec en l'air. Vous avez une rencontre qui est prévue samedi, messieurs, vous le savez, avec une lecture projection qui est à la petite salle du théâtre Jean Le Bleu à Manosque dans le cadre des correspondances à 16h30. Vous êtes ravi d'être présent en correspondance?
Ah, moi je suis ravi d'être à Manosque et à cet événement effectivement très très riche en activité. Oui, je suis ravi, oui.
Et vous, Simon?
Oui, d'autant plus qu'il y a une forte communauté marocaine ici, donc je ne suis pas dépaysé, c'est très agréable.
C'est bien, vous avez votre appareil photo, je suppose?
Comme toujours.
C'est bien. Mais je vous propose de faire une pause musicale, on va écouter quelqu'un qu'on va recevoir dans un instant. Il s'agit de Barbara Carlotti qui est en concert ce soir, elle va présenter son salon rock, et je vous propose d'écouter une chanson signée Barbara Carlotti. Les femmes en zibeline, je vous souhaite une bonne correspondance.
Merci.
À tous les deux.
Merci.
À très bientôt, merci.
Les femmes en zibeline promènent leur grand style devant les vitrines des grands magasins. Dans cet immobile, leur regard de bille, ces âmes futiles n'ont pas la vie facile. Des dollars s'alignent dans leurs yeux qui brillent. Elles veulent avoir chaud car l'hiver les tient. Et sur les réclames dans les magazines, on empile des fesses, des bouches et des seins. Elles pleurent de détresse, personne ne les touche, pas même les singes, les loups. Alors elles achètent pour leur peau satin des poils de tigresse, des peaux de lapin. Des dollars s'alignent dans leurs yeux qui brillent. Elles veulent avoir chaud car l'hiver les tient. Et sur les réclames dans les magazines, on empile des fesses, des bouches et des seins. Les femmes en zibeline dans les quartiers chics promènent leurs trésors sur leurs petits seins. Les destins tragiques des animaux morts qui caressent leur corps quand l'hiver les tient. C'est leur seule caresse puisqu'on les délaisse. Leur petit toutou brisé s'allaisse. Et sous leur renard, vendre la peau de leur ours pour l'amour ce soir. Ah, 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 ah.
fait trop chaud à Manosque, surtout en ce moment, pour sortir les Ibelines. Bonjour Barbara Carlotti.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir en nos studios pour parler de votre spectacle ce soir, le Salon Rock que vous allez proposer avec Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre aussi.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir également. Bienvenue. Un Salon Rock, ça veut dire que vous avez mis toute votre jeunesse là-dedans, toutes vos expériences, vos inspirations.
Même des choses quand j'étais pas encore née, puisque... Avec Jean-Pierre, on a eu cette idée de... Donc Jean-Pierre, qui est aussi mon guitariste sur scène habituellement, et qui m'a fait découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de l'histoire du rock importantes, je pense pour tout chanteur qui se respecte de connaître. Donc on a eu cette idée de revenir un peu sur les grandes chansons un peu mythiques du rock'n'roll, et aussi des textes de rock critique qui avaient... qui avait écrit sur ces moments un peu fondateurs de l'histoire du rock, en fait.
Avec plusieurs inspirations différentes au niveau des écrivains, au niveau des auteurs. Qu'est-ce qu'on va trouver ?
Alors, ouais, il y en a pas mal. Il y a Lester Banks, qui est un peu un des mythiques, en tout cas, qui a influencé une génération d'écrivains à sa suite. Il y a Nick Cohn, Nick Kent... donc évidemment beaucoup d'anglo-saxons, mais pas que. Il y a Yves Adrien, qu'est-ce qu'il y a, Alain Pacadis en France, Jean-Pierre Edmond.
Il y a beaucoup de choses, et puis c'est quand même assez...
Jean-Jacques Schulz.
Pas aléatoire, parce que c'est un peu choix, c'est un choix, mais c'est pas très raisonné non plus, mais il se trouve quand même que avec Yves Adrien, on a plutôt un côté manifeste. Avec Lester Banks, on a une entrée dans la littérature. Avec Nick Cohn, on a une fiction inspirée vraiment de ce que c'est qu'un teenager.
Et pour la musique, comment vous avez fonctionné ? Vous avez choisi des classiques anglo-saxons ou il y a du français ?
Oui, en fait, quand les textes nous amenaient sur une chanson du Velvet ou une chanson de David Bowie, voilà, on est allé assez librement justement dans ce que les textes nous indiquaient, quoi. Et du coup, oui, il y a plein de reprises. Il y a plein de reprises. Et aussi, on a écrit, en fait. On a écrit sur ce thème de l'écriture sur le rock et des personnages qu'on retrouve dans le rock, etc. Donc, il y a des chansons qui sont écrites spécialement pour le spectacle.
Vous avez également travaillé sur la scénographie. C'est un salon rock que vous installez
c'est un vrai salon. Ben, en fait... je pense que tout le monde a écouté du rock dans sa chambre quand il était adolescent, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un intérieur avec des vinyles, des bouquins sur le rock, des posters qui sont en fait un grand fond comme ça où on va diffuser des photos, et puis les grandes figures du rock, donc évidemment Elvis Presley la première.
Le King.
Le King.
Jean-Pierre, comment est-ce que vous avez fonctionné au niveau musical pour accompagner une seule chanteuse ? Vous êtes seul avec votre guitare ou il y a des bestioles avec vous ?
Je suis seul avec ma guitare, mais tout de même accompagné par un guitariste électrique, qui est vraiment un guitare héros, Sébastien Hoog. Et là, ça apporte justement un peu d'électricité, puisque sinon les chansons, elles seraient plutôt... comment dire,
dans une
veine folk, mais en fait,
Jean-Pierre et moi,
plus de nerf, quoi.
Et là, du coup, lui, il apporte le nerf
de la guerre,
de la gentille guerre qui va se livrer ce soir.
Mais Jean-Pierre chante, on chante en duo, en fait. On chante en duo, on a écrit les chansons justement en duo. Donc après, on se partage certaines reprises, mais c'est souvent. Enfin voilà, on est tous les deux à chanter, et même Sébastien qui nous accompagne à la guitare électrique, lui aussi fait des chœurs, etc. L'idée c'était plutôt de revenir sur ces grandes chansons des Rolling Stones qu'on adore, qui font partie comme ça de nous, qui sont de notre jeunesse, mais aussi d'une jeunesse universelle, quoi. L'idée c'était de revenir dessus avec dans le souvenir, c'est-à-dire on va pas refaire ce que faisaient les Stones, c'est impossible, mais par contre être dans le plaisir de ce souvenir-là, c'est-à-dire en fait avec très peu de choses, juste une guitare acoustique, revenir comme ça sur l'essentiel de la chanson, quoi.
dans vos tours de chant habituels, Barbara, vous avez de temps en temps l'opportunité de glisser un classique du rock'n'roll ou une chanson de Nico.
Bien sûr. Oui, moi j'adore faire des reprises. En fait, c'est marrant parce que j'avais commencé en faisant du jazz. Moi, j'ai commencé en faisant une école de jazz. Et j'adorais les grands standards et tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, j'ai complètement quitté cette idée de reprise et tout. Et là, en fait, mon plaisir depuis quelques temps, c'est aussi de réinjecter pas mal de reprises et d'être dans ce plaisir-là, de chanter vraiment les choses qu'on a aimées, qu'on a adorées.
Et de faire partager ce plaisir.
Et de faire partager ce plaisir, exactement.
Alors, Barbara, vous connaissez fort bien, vous, les correspondances de Manos. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici, et même dans ce studio. C'est une vitrine extraordinaire, les correspondances. Vous allez pouvoir profiter toute la journée, pour l'instant, puisque votre concert, c'est ce soir.
On a quand même une petite répète cet après-midi, mais on va profiter du soleil, puis des lectures. Moi, j'adore, en fait, quand je suis venue la première fois, donc c'était pour Nébuleuse d'Andy, c'était il y a 3-4 ans, et c'était un choc, en fait. J'ai découvert plein d'écrivains, des musiciens, des formes de spectacle que je connaissais pas, entre la littérature et la musique, des lectures... Et puis l'ambiance du festival est formidable, quoi. Il y a vraiment comme ça,
très
il y a
convivial,
une vie,
tout d'un
très
coup,
convivial,
on se lit facilement.
Ouais, voilà. et puis on rencontre vraiment les gens. Et pour ça, c'est vraiment super. Donc pour moi, c'est un plaisir énorme de revenir ici, quoi.
Un petit mot sur le concert que vous avez écouté hier, celui de Bertrand Belin.
Bertrand Belin, en fait, il va être écrivain, c'est sûr. Il a une facilité avec les mots, il a un talent d'orateur déjà génial, et il a une facilité de... Puis il joue avec le langage. Et donc le concert était très 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 beau. Enfin, en plus, quand il est tout seul à la guitare, Bertrand, c'est royal. Mais il joue comme ça avec les mots. Il est parti comme ça dans une digression où il essayait de nous expliquer ce que c'était qu'un concert littéraire, qu'il n'avait pas trouvé encore la solution, mais que la recherche l'intéressait beaucoup. Et puis voilà, il nous a lu plein de poètes magnifiques. Christophe Tarkos. Pennequin, enfin... Il avait un gros livre, il avait Moby Dick dans les mains aussi, il s'est un peu amusé avec. Donc ouais, c'était génial. C'était génial aussi de voir Bertrand, que moi j'ai l'habitude de voir en concert, raconter ce qu'il aime en littérature, parce qu'on sent à quel point ça l'influence sur les textes de ses chansons.
Exactement, sa manière d'écrire, elle est vraiment très particulière. Bertrand Belin qui est nommé pour le prix Constantin, mais qui ne se fait pas d'illusions, il me l'a dit hier. Le jour où Bertrand Belin ou Bastien Lallemand ou Barbara Carlotti obtiendra un prix qui passera sur M6, il faudra nous le dire, les choses auront beaucoup changé dans le pays. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est une bonne chose déjà que son nom soit
oui,
à
puis
côté,
il va passer sur France 2 et ça
oui,
c'est
peut-être.
Très bien.
Donc, c'est déjà très bien aussi, c'est une bonne chose. Découvrez Bertrand Belin, découvrez aussi, si vous ne la connaissez pas, Barbara Carlotti, et surtout son album L'Idéal, dont on a écouté un extrait tout à l'heure, Les femmes en zibeline, et puis Bastien Lallemand, qu'on a découvert aussi hier, qui est un personnage étonnant et qui est un admirateur de Jean Genot. On vous retrouve, Barbara, également après ce concert avec Aurélie Kieffer pour Lire dans le noir. C'est quel jour? C'est demain, je crois.
C'est demain après-midi à 15h.
Demain après-midi à 15h, c'est Aurélie qui va vous cuisiner, ça vous fait pas peur?
Un peu, mais bon, parce que c'est dans le noir. Hein.
Non, vous savez aussi bien que moi qu'Aurélie est adorable et qu'elle connaît très bien son métier. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nos studios à Fréquence Mistral. Et puis, bonne correspondance à tous les deux. Bon concert ce soir et profitez bien du soleil, effectivement. Pas besoin de zibeline sur...
Avec
sur,
plaisir.
À Manosque. Merci aussi Vincent pour la régie. Demain, vous retrouverez Doc James ici même avec des invités, notamment un certain Rosset et puis François Bonne qui sera également avec lui et peut-être quelques reportages intéressants. Merci, profitez des correspondances. C'est à Manosque jusqu'au 25 septembre.